Vous l'avez entendu, nous avons aussi notre lot d'histoires bibliques violentes. David et Goliath. Ces noms, plus qu'une histoire biblique, font partie du patrimoine universel, au point qu'ils sont même devenus une expression courante pour désigner un rapport de force inégal. C'est David contre Goliath. Ce récit fait aussi partie, dans notre patrimoine biblique, de ces histoires que l'on aime raconter aux petits pour témoigner de la force de Dieu, de la force que Dieu donne à ceux qui croient en lui. Aux petits, oui, mais aussi à nous, les plus grands, une histoire qui nous rappelle combien nous, les petits, et souvent avec peu de défense dans le monde, nous pouvons être grands et forts aux côtés de Dieu. En fait, c'est une assez jolie histoire qui fait du bien, et ma foi, nous en avons la plupart du temps besoin. Alors, replongeons-nous d'abord dans le parcours de David, ce jeune berger devenu roi, dont la vie traverse le Premier Testament. David, nous le rencontrons d'abord lorsque, jeune adolescent berger, il est pressenti pour succéder au roi Saül. Le prophète Samuel, sous les ordres de Dieu, va le chercher au milieu de son troupeau, chez lui, à Bethléem. Il est le dernier des 8 fils de Jessé. C'est à cette même période qu'il va terrasser le géant. David est aussi au service du roi comme musicien. Nous retrouvons le David musicien dans les psaumes, où beaucoup de ses poèmes chantés lui sont attribués. Psaume de David, pouvons-nous lire dans nos Bibles. David entre ensuite dans la famille royale en épousant Michal, la fille du roi, en récompense de sa victoire contre Goliath. Nous connaissons aussi David par Jonathan, son grand ami et fils de Saül. David devient alors un grand guerrier qui remporte beaucoup de batailles pour le peuple d'Israël. Puis les choses vont se gâter, le roi Saül va être jaloux des victoires de David et va se sentir menacé et du coup va essayer à plusieurs reprises de faire tuer David. David doit alors prendre la fuite. Et à la mort de Saül, il va devenir le deuxième roi d'Israël. Et une fois roi, c'est alors paradoxalement un David beaucoup moins glorieux qui nous est décrit. Adultère avec Bethsabée, coup bas, complot meurtrier et difficulté avec ses enfants qui cherchent à tout prix chacun à avoir le pouvoir. Finalement, ça sera David qui va lui-même désigner son successeur, qui s'appelle Salomon, un des fils de David. Malgré tout, David va rester le modèle des rois dans toute l'histoire d'Israël. Et ses successeurs seront toujours jugés selon sa ressemblance. Alors revenons à notre histoire. Le jeune berger David, bon musicien, est jusque-là chargé de soulager le roi avec sa cithare, quand les nerfs du roi se jouent de lui. C'était de la musicothérapie avant l'heure. Et c'est dans ce contexte qu'il décide de combattre le géant Goliath. Ainsi, les aléas de la guerre en cours l'amèneront à troquer sa tenue de barde contre celle de champion d'Israël, qui se passe d'ailleurs de toute tenue, vous l'avez vu, on l'a redit, David combat Goliath sans cuirasse, avec une simple fronde. Ce combat arrive après 40 jours de défi entre les deux peuples. Alors d'un côté les Philistins, que l'on appelle le peuple des mers, ce peuple est réputé fort et réputé pour sa supériorité en armes. Et de l'autre côté, Israël, le peuple de Dieu, où Goliath n'arrive pas à trouver d'adversaire. Jusqu'à ce que David, qui n'était d'ailleurs pas un soldat, il était venu sur le champ de bataille apporter à manger à ses frères, se propose, contrairement à ce qui est sur la vidéo où on a l'impression qu'on le force à aller combattre, mais dans l'histoire biblique, il se propose pour aller combattre le géant, malgré les doutes de tous. Alors, tout sépare les Philistins des Hébreux. La religion, la langue, les coutumes. Deux civilisations s'affrontent pour posséder une terre entre la puissance égyptienne et la Syrie. Rien de nouveau sous le soleil. Vous connaissez la suite, le jeune homme lui jette la première pierre, et c'est la bonne, elle terrasse le géant, et David lui coupe la tête. Bien. Alors, que retenir de toute cette histoire ? Il est d'abord juste et bon de dire que ce récit est à lire comme un conte. On peut, il est vrai, être tenté de transposer cette histoire dans les combats d'aujourd'hui. Ce serait toutefois insensé. On rêverait en effet alors d'être tous un David, jeune, beau et fort, rempli de la force de Dieu. Mais ce serait oublier trop vite que dans l'histoire, c'est finalement David qui est le tueur. C'est lui qui est à l'origine du bain de sang, c'est lui qui tranche la tête de son rival et qui se promène avec encore plusieurs heures après. Dans la suite de l'histoire, David va d'ailleurs faire alliance avec des princes philistins pour sauver sa peau, alors qu'il a défendu avant le peuple d'Israël. Il faut toujours prendre garde aux raccourcis, en particulier dans la Bible. Il y aurait aussi ici les bienfaits de l'auto-persuasion. Vous voyez, si Dieu est avec moi, même faible et petit, je les vaincrai tous. Oui, mais non, car Dieu n'a pas de camp. Est-il bon de rappeler que Dieu n'est jamais celui qui choisit de tuer les uns pour faire vivre les autres ? En tous les cas, moi je ne crois pas en ce Dieu-là, calculateur et guerrier. Le Dieu de Jésus-Christ auquel je crois ne veut pas la victoire d'un seul contre tous, mais celle de tous avec un seul, lui, et ce pour une paix commune. Le Dieu de Jésus-Christ ne veut pas la victoire d'un seul contre tous, mais de tous avec un seul, lui, pour une paix commune. Dieu est malheureusement trop souvent celui qui, dans les conflits de tous ordres, est instrumentalisé au profit d'un camp ou d'un autre. Mais je crois, et peut-être vous aussi, que Dieu n'est que dans la paix juste et bonne, et jamais dans le déchirement et dans la mort. Il est intéressant de nous rappeler aussi que Jésus-Christ est le descendant de David. Nous le lisons dans la généalogie de l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, le premier verset. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Au verset 6, Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. Au verset 17, voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Et ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Vous savez, Jésus-Christ né à Bethléem, la ville de David. Vous l'avez entendu, il habitait avec Jessé, son père, à Bethléem. Nous lisons aussi dans l'évangile de Luc, « Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, il est le Christ, le Seigneur. » Ces rappels dans le Nouveau Testament, comme si David avait quand même bien quelque chose à nous apprendre de notre foi de chrétien en Jésus-Christ. Alors quoi ? Ce que nous apprend ce récit est que la force de David lui vient de son Dieu. David s'engage dans la lutte sans crainte, sûr de vaincre non pas parce qu'il se croit le plus fort, mais parce qu'il sait que Dieu est avec lui et que ce sont ses forces à lui, à Dieu, qui vaincront. Ce qu'il ne manque pas d'ailleurs de dire à Goliath haut et fort, « Tu viens contre moi avec une épée, une lance, un javelot, et moi je viens contre toi au nom de Yahvé, Dieu des armées, Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Petite parenthèse, notez qu'à cette époque et pour ce peuple dont nous sommes, un dieu insulté valait une tête coupée. Pour l'auteur du livre de Samuel, dans un contexte religieux et politique difficile, où la nouvelle monarchie du peuple d'Israël, avec Saül comme premier roi, a encore besoin de trouver justification auprès du peuple, il est donc un outil important que de grossir les traits des combattants, pour montrer que oui, Yahvé est bien avec le peuple et son roi Saül. Alors voilà David, un jeune homme à belle allure, aux cheveux roux et aux beaux yeux, à la parole intelligente d'un côté, et de l'autre côté, un monstre sans cervelle, les concepteurs de la vidéo l'avaient bien compris, de 6 coudées et 1 empan, nous dit le texte. Cette taille correspond environ à 2,90 m, et il faut savoir que les géants en Israël étaient considérés comme des êtres maléfiques, des êtres malfaisants qui s'étaient révoltés contre Dieu. N'oublions pas aussi que David vient juste d'être oint par le prophète Samuel, c'est-à-dire désigné comme futur roi, et que donc un roi de Dieu ne pouvait que gagner. Les ingrédients de l'histoire sont tous bien dosés pour nous faire témoigner que Dieu est avec le roi, et donc que le peuple peut et doit lui faire confiance. Alors au-delà de cette portée historique du récit, cette histoire témoigne d'une très belle relation de l'être humain à son Créateur, la confiance. Oui, nous l'avons dit, ce n'est pas le petit David, mais bien Dieu qui agit contre Goliath. Mais c'est d'abord grâce à la confiance du jeune enfant envers son Dieu. Que serait-il arrivé à Israël si David ne s'était pas mis en avant pour défier Goliath ? C'est d'abord par la confiance que la victoire est arrivée. C'est par la confiance que la victoire arrive. Car la confiance fait reculer la peur. C'est bien d'un élan du cœur d'un petit que la victoire de tout un peuple a jailli. Et aujourd'hui, dans ce même prolongement, les chrétiens que nous sommes confessent que c'est dans la naissance, la vie, la mort et la résurrection d'un pauvre fils de charpentier que nous sommes tous sauvés pour l'éternité. La foi, qui signifie la confiance, peut déployer une force insoupçonnée en chacun de nous. Nous le savons. Et l'expérimentons, je l'espère, dans nos vies presque au quotidien. Et ainsi, comme David, mettant au défi le mal qui nous accable, au cœur de nos guerres de chaque jour, nous avançons en récitant ces poèmes, comme l'ouverture du psaume 27, « L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Puissions-nous garder ce David petit et confiant, priant et chantant son Dieu sans relâche et toute sa vie, dans la victoire ou dans la défaite, dans ses bons choix comme dans les mauvais, dans la joie comme dans la tristesse. Oui, ce David-là vit dans la foi fidèle qui déplace les montagnes. Mes amis, en Jésus-Christ, marchons dans la confiance et nous vaincrons. Amen.